Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 8 décembre, nul ou presque, le niveau en maths des élèves de 4e et celui des élèves de 5e il y a 25 ans. On a perdu une année en une génération. Et dans le classement international Teams, la France est dernière des pays de l'Union européenne en maths et en sciences. Comment redresser la barre? Le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, sera l'invité de ce journal. Elle s'appelle Margaret Keenan, elle a 90 ans et cette Anglaise est la première occidentale à avoir reçu le vaccin de Pfizer ce matin sous le crépitement des flashs. La campagne de vaccination démarre outre-Manche. Et chez nous, eh bien, les EHPAD commencent à s'organiser. La perpétuité requise contre le principal accusé des attentats de janvier 2015 et au moins 5 ans pour tous les autres, nous irons au tribunal de Paris. Dans RTL Midi aussi, l'histoire d'un policier ripoux soupçonné d'avoir participé à un vaste trafic de voitures, plus d'une centaine de véhicules. Il est en garde à vue à Paris. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Vous explorez toutes les nuances de gris aujourd'hui.
C'est vrai que c'est bien nuageux sur la majeure partie du pays avec de faibles précipitations. Alors de pluie ou de neige, des 300 mètres entre l'Auvergne, la Bourgogne, la Lorraine et jusqu'en plaine d'ailleurs sur le Grand Est. Fin de la vigilance orange sur la Lozère. On a des averses orageuses encore sur la Corse et de la neige des 1400 mètres. Un temps instable également au pied des Pyrénées où on attend 10 à 20 cm de neige en plus. Et puis on pourrait tout de même avoir quelques éclaircies entre les Hauts-de-France et le Limousin. Et là où le soleil sera le plus généreux, c'est entre la Bretagne et la façade atlantique. Côté température, de 3 à Strasbourg à 12 à Toulon.
La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à fêter Noël sans votre famille? Il y a 51% de oui, 44% de non. Les Français qui nous écoutent sont très divisés. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle, faut-il sacrifier cette période de Noël pour empêcher une troisième vague? On parlera des mathématiques, 1040 et 1040 Christelle?
2080.
Et 10?
2090.
Et 10?
2100.
On dit 3000 parfois, mais je ne vous ai pas eu. Donc, mais on est nul en maths, donc on pourra en parler. Elle avait peur. Et puis, question également pour Emmanuel Macron qui a décidé la tenue à partir de janvier d'un Beauvau de la sécurité. Là aussi, vous pourrez réagir. Et puis, le 8 décembre 1980, nous étions peut-être ensemble en classe de première ou de seconde. On a appris ce jour-là la mort de John Lennon. Christelle, on pourra lui rendre hommage. À tout à l'heure. Et bravo encore, les 19.
Au 32-10. RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Moi, j'étais plutôt sur 8 fois 7. À cette question simple, les élèves mettent parfois un temps interminable avant de donner une réponse qui n'est pas forcément la bonne. Si le bonnet d'âne existait encore, la France le porterait en sciences et en maths. La dernière étude Teams, réalisée tous les 4 ans par des chercheurs internationaux, place la France et ses élèves de CM1 et de 4e, bon dernier de l'Union européenne et avant-dernier de l'OCDE devant le Chili. Le compte n'est pas bon, Armelle Lévy.
Ah non, les résultats sont catastrophiques. On commence par les CM1. En mathématiques comme en sciences, 15% des élèves n'ont pas les connaissances élémentaires, le minimum requis. Ils n'atteignent même pas le niveau le plus bas des tests, 15% de nos écoliers. Dans l'Union européenne, c'est 6%. Et quand on regarde nos bons élèves, seuls 3% parviennent à atteindre le niveau le plus avancé des tests. 3% en Europe, c'est 9%. Donc, en CM1, comparé aux autres, tout le monde décroche. On a plus d'élèves en difficulté et moins d'élèves excellents.
Et en quatrième?
Alors, seule la Roumanie et le Chili font pire que nous. Là encore, 2% de nos collégiens atteignent le niveau le plus avancé, contre 11% en moyenne dans l'Union européenne et 50% à Singapour. Donc chez nous, c'est un problème plus global, ce n'est pas uniquement le problème des décrocheurs. Les bons comme les moins bons, tous les élèves sont tirés vers le bas. Et comme cette enquête existe depuis 1995, à une époque où on était performant, on voit qu'on a perdu 47 points. Ce qui veut dire, écoutez bien, que les élèves de quatrième aujourd'hui ont le niveau des élèves de 5e de 1995. En 25 ans, la baisse du niveau en mathématiques est donc quantifiable. On a perdu une classe.
Comment en est-on arrivé là? Nous sommes avec Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. Bonjour.
Bonjour.
On disait on a perdu une classe en 25 ans. Il y a une révolution qui s'impose, non?
Il y a une révolution qui s'impose, mais qui s'est déjà imposée en fait, puisque ces résultats ne font malheureusement que confirmer d'autres enquêtes qui allaient toutes dans le même sens. Et c'est pour ça qu'en 2018, le ministre a lancé ce qui s'appelle le plan Villani-Torossian pour redresser la barre, si vous me permettez l'expression, des mathématiques. Donc les élèves qui étaient ici évalués n'en ont pas bénéficié, puisque c'est ceux qui sont rentrés en CM1 ou en 4e en septembre 2018, c'est-à-dire au moment où on commençait à déployer ce plan. Mais aujourd'hui, on a totalement changé de braquet et on poursuit.
Oui, mais est-ce que ça va suffire? Parce qu'on l'entendait à l'instant avec Armelle Lévy, tout le monde décroche. Même les bons élèves n'arrivent plus à atteindre le niveau d'excellence. 2% en quatrième contre 11% en moyenne en Europe.
Effectivement, l'enjeu, c'est de redresser la barre, j'allais dire, pour tout le monde, c'est de remonter le niveau pour tout le monde. Ça passe notamment par la formation continue des professeurs. Quand on regarde cette étude internationale, tous les pays qui ont mis en place massivement de la formation continue des professeurs sur les pratiques pédagogiques en mathématiques sont ceux qui soit ont progressé, soit obtiennent les meilleurs résultats. Mmh. Et donc, c'est le sens de la démarche qu'on a entamée. Ça, aujourd'hui, vous avez en France...
Pardonnez-moi, oui. Ça va prendre combien de temps, Édouard Geoffrey?
L'effet, par définition, c'est on a des effets de cohorte, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand vous commencez, ça fait déjà 2 ans qu'on a tout retravaillé sur le CP, le C1, le CE2, etc. Et donc, ces enfants-là, on pourra mesurer... j'ose pouvoir vous dire que dans la prochaine enquête PIMS, on aura rétroactivement l'effet. Ouais. L'effet, on le verra. Ça, à titre personnel, j'ai absolument aucun doute là-dessus.
Qu'est-ce que vous avez changé dans la formation des professeurs?
Alors aujourd'hui, en fait, les professeurs, d'abord, c'est une formation qui est massive, puisque vous avez dans toutes les circonscriptions de France un référent mathématique, donc 1600 référents, qui passent la moitié de leur temps à animer les formations avec leurs collègues, première chose. Deuxième chose, les professeurs maintenant travaillent entre eux. C'est un système qu'on appelle des constellations. C'est-à-dire c'est de la formation entre pairs où on va finalement se familiariser beaucoup plus avec des pratiques pédagogiques différentes. Mmh. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a totalement réoutillé les programmes et ce qu'on appelle les repères à temps de progression. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire à chaque niveau, en CP, en CE1, en CE2, en CM1, en CM2, etc., pour un enfant en mathématiques, aussi bien d'ailleurs qu'en français. Et donc on sait maintenant ce avec quoi un enfant doit sortir de tel niveau en termes de compétences.
Donc des pratiques pédagogiques différentes, soit, mais vous avez quand même toujours un problème de recrutement. Ceux qui sont bons en maths aujourd'hui préfèrent devenir ingénieurs que prof compte tenu des niveaux de rémunération.
Alors c'est un ensemble, c'est pas tant une question de recrutement que de taille du vivier. Aujourd'hui vous avez 4000 à peu près étudiants de mémoire hein, en master 2 de mathématiques en France, et nous on recrute entre 1500 et 1600 professeurs de mathématiques chaque année. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on recrute par rapport à la taille du vivier. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est dilater le vivier, c'est-à-dire c'est redonner le goût des mathématiques post-bac à nos étudiants.
Bon, il y a un autre problème, c'est qu'il y a toujours une sélection par les maths aujourd'hui. Ça veut dire que le niveau va baisser aussi dans les prochaines années, dans nos grandes écoles?
Alors, je ne pense pas, parce que notamment quand on prend en fait l'ensemble de la chaîne, hein, on a donc redressé la barre, on est en train de redresser la barre au niveau du primaire.
D'accord, mais les quatrièmes là dont on parle aujourd'hui, dans 4 ans, ils arrivent, ils ont le bac. Donc qu'est-ce qu'on fait pour eux?
Alors, ces quatrièmes, d'abord, actuellement, le plan maths s'applique aussi au collège. Donc, on est déjà en train de faire en sorte que ça se passe bien. Ceux qui aiment les maths iront au lycée, notamment, ils pourront prendre la spécialité maths au lycée. Cette spécialité qui a été qualifiée par certains d'exigeante.
On m'a dit qu'elle était extrêmement difficile. Oui.
Bah, elle est exigeante, mais elle est aussi la garantie d'un maintien d'un niveau. Alors, toute seule, isolée, ça pourrait se discuter, mais pris dans une chaîne globale où on redresse le niveau mathématique à chaque niveau de la scolarité, c'est parfaitement cohérent et ça maintient un niveau ensuite d'exigence pour le post-bac.
Rapidement, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui nous écoutent en ce moment et qui ont tout lieu d'être inquiets?
Un, on a pris le taureau par les cornes. Deux, les mathématiques, c'est une question de familiarisation qui peut se faire partout, tout le temps. Et si votre enfant a un petit peu de mal avec les mathématiques, c'est pas qu'il a pas l'esprit mathématique, c'est juste qu'il faut qu'on retravaille ça avec lui.
Oui, mais il y a des familles qui n'ont pas du tout l'esprit mathématique et tout le monde n'a pas forcément le niveau pour expliquer toutes ces choses-là à nos enfants.
Non, bien sûr, c'est pour ça que je parle de familiarisation, c'est-à-dire qu'avec les tout-petits, compter les couverts quand on met la table, par exemple, ça peut paraître tout bête, mais c'est une familiarisation avec les premières opérations. Après, effectivement, c'est l'école qui s'en charge et c'est très bien. Tout ce qu'il faut, c'est créer cette familiarité et savoir que nous, on a pris le taureau par les cornes pour que ça change.
Eh bien, on en reparlera, j'espère, très prochainement. On se refera un point. Merci, Édouard Geoffrey, directeur général de l'enseignement scolaire. Dans un instant, nous partons en Angleterre où la vaccination a commencé ce matin.
RTL Midi, avec Christelle Rebière.
Elle aura attendu 90 ans pour accéder à la notoriété. Margaret Keenan, une grand-mère britannique, est devenue aujourd'hui la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Le Royaume-Uni vient de lancer sa campagne. On retrouve à Londres Marie Billon.
Oui, c'est un cadeau d'anniversaire en avance, a dit cette grand-mère qui aura 91 ans la semaine prochaine. Margaret Keenan avoue avoir apprécié l'attention qu'elle a reçue ce matin à travers les médias britanniques. Elle a même lancé un message pour ceux qui se méfient du vaccin.
Do, please go for it. If I can do it.
Allez-y.
si je peux le faire, vous aussi. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée ces derniers temps. C'est une maladie horrible. Tout ce qui nous permet de nous en débarrasser est un bonus.
Margaret Keenan a été vaccinée à Coventry, dans le centre du pays. Le Premier ministre Boris Johnson, lui, a visité un hôpital à Londres ce matin et a parlé à une autre dame de 80 ans qui a, elle aussi, été vaccinée.
Ça m'a touché quand elle a dit qu'elle se faisait vacciner pour le pays, parce qu'en se protégeant, elle protège tout le monde. À travers tout le pays, des gens se font vacciner aujourd'hui. Et au fur et à mesure, cela fera une grande, grande différence.
Plus de 70 hôpitaux du Royaume-Uni ont reçu une boîte réfrigérée contenant 975 doses et chacun devrait effectuer plusieurs dizaines de vaccinations dès aujourd'hui.
Marie Villon à Londres pour RTL. Pour la petite histoire, sachez que la deuxième personne vaccinée en Angleterre s'appelle William Shakespeare, 81 ans. Le vrai, lui, aurait 404 ans aujourd'hui et serait lui aussi prioritaire. En France, on attend le feu vert des autorités. L'Agence européenne du médicament doit rendre un avis sur ce vaccin d'ici fin décembre. Les personnes âgées les plus vulnérables seront prioritaires et les EHPAD commencent à s'organiser, Sophie Jousselin.
Oui, et c'est une organisation toute militaire qui va se mettre en place dans les EHPAD. On injectera le vaccin de Pfizer. Il sera d'abord conservé à moins 80 degrés dans des centres de stockage. Puis les établissements recevront les doses décongelées, devront les garder au frais, mais pas à moins 80 degrés. De ce fait, ils n'auront pas plus de 5 jours pour vacciner. Le Sinerba, qui regroupe les établissements privés, pense que les vaccinations devraient commencer à la mi-janvier, car avant de pouvoir faire les premières piqûres, les EHPAD devront recueillir le consentement des résidents. Alors si la personne est en mesure de donner son accord, ce sera simple. S'il s'agit d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de démence sénile, il faudra l'accord de la famille. D'ailleurs, le Sinerba souhaite qu'il y ait un document officiel à signer. Enfin, le résident devra passer une consultation médicale avant d'être vacciné.
Bon, et pour les fêtes de fin d'année, les résidents pourront-ils sortir ?
Alors, c'est ce que souhaite le Sinerba, qui est dans l'attente d'un protocole de la part des autorités sanitaires. Mais de son côté, il a imaginé un scénario type. Le résident serait testé quelques jours avant de partir dans sa famille. Ses proches seraient incités, bien sûr, à faire la même chose. De retour dans son établissement, le résident serait de nouveau testé et confiné une semaine dans sa chambre. Mais ses sorties de Noël pourraient être remises en cause par la situation épidémique actuelle.
Et oui, c'est toujours l'incertitude sur un déconfinement initialement prévu le 15 décembre et sur les déplacements pour les fêtes, puisque Jean Castex l'a reconnu, on ne sera pas à l'objectif des 5000 contaminations par jour la semaine prochaine. La SNCF, elle, se dit prête pour les fêtes. Elle attend le go sanitaire pour préparer les trains, mais les Français demeurent prudents. 1,8 million de places ont été vendues dans les TGV pour les fêtes sur les 4,5 millions disponibles. Carrefour s'engage auprès des jeunes qui souffrent des confinements depuis le début de la crise sanitaire. Alexandre Bompard, le PDG du groupe, premier employeur privé de France, va multiplier les embauches.
Nous embaucherons l'an prochain, en 2021, 15 000 jeunes en leur proposant soit des CDI, soit des contrats d'alternance. C'est 50% de plus que les années précédentes. Je veux que 50% de ces jeunes recrutés proviennent des quartiers défavorisés.
Ce sont quel type de postes ?
Alors vous avez raison, dans un Carrefour, on ne sait pas, mais il y a 300 métiers. Il y a les métiers de bouche, pâtissier, boulanger, poissonnier, boucher. Exactement. Il y a les métiers de magasinier, il y a les métiers dans nos entrepôts, et puis il y a tous les métiers de nos sièges. L'idée, c'est que tous ces métiers-là soient ouverts pour les jeunes qui nous rejoindront, notamment pendant leur formation en alternance.
Alexandre Bompard qui était ce matin l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Les chèques cadeaux plus généreux cette année. Le gouvernement va doubler le plafond de défiscalisation pour les chèques de Noël distribués par les comités d'entreprise ou directement par les employeurs. Le montant maximum passera de 172 à 341 euros. Dans un instant, des peines de 5 ans à la perpétuité requises au procès des attentats de janvier 2015.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
L'avocate générale appelait hier les magistrats de la Cour d'assises spéciale de Paris à prendre rendez-vous avec l'histoire. Ce matin, elle a requis des peines allant de 5 ans à la perpétuité pour tous les accusés soupçonnés d'avoir aidé à la préparation des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Cindy Hubert, des peines très lourdes.
Oui, les avocats généraux n'ont pas hésité à réclamer la peine maximale contre Ali Rizapolat, le seul dans le box à être ici pour complicité. Pour les magistrats, la perpétuité ne doit pas être réservée aux auteurs directs des attentats. Polat a été la pièce maîtresse de ces attaques. Il était présent à chaque étape des actes préparatoires. Les peines tombent toujours très lourdes pour les autres accusés abasourdis. Les chevilles ouvrières, la base arrière de ces attentats effroyables. Les avocats généraux ne le cachent pas. Reconstituer le puzzle, la toile de responsabilité n'a pas été simple. Les accusés ont créé un écran de fumée, un mur de mensonges et d'amnésie. Mais ne vous y trompez pas. Sans eux, Amédi Coulibaly et les frères Kouachi ne seraient rien. Les deux magistrats se tournent vers la cour. Votre décision sera scrutée dans le monde entier. Il faut une réponse ferme à la terreur. Votre plume ne doit pas trembler.
30 ans de prison, par ailleurs, été requis contre Ayad Boumediene, la femme d'Amédi Coulibaly, qui serait toujours en Syrie. Elle fait l'objet depuis déjà longtemps d'un mandat d'arrêt. Comment réformer la police? En pleine polémique sur les violences policières, Emmanuel Macron annonce la tenue en janvier d'un Beauvau de la sécurité. Beauvau, du nom de la place où est situé le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et de consolider les liens avec les Français. Y participeront des représentants de la police, des élus et des citoyens. Au même moment, on apprend l'existence d'un nouveau dossier sur le bureau de la police des polices, l'IGPN. Un policier parisien a été placé en garde à vue ce matin, soupçonné d'être impliqué dans un gigantesque trafic de voitures volées avec 14 autres personnes. Il y en avait au moins pour 3 millions d'euros, Alice Moreno.
Oui, c'est le juteux bénéfice réalisé grâce au trafic de plus d'une centaine de voitures volées. Des véhicules d'abord retrouvés par les enquêteurs, mais au lieu d'être rendus à leurs propriétaires, ils étaient maquillés et revendus au prix fort. Un trafic parfaitement huilé qui a duré au moins 3 ans. Le policier interpellé ce matin, qui a travaillé dans 2 commissariats parisiens, n'est pas la tête de ce réseau, mais il aurait joué un rôle clé. Il est soupçonné d'avoir fait disparaître des voitures, des fichiers, des véhicules volés. Une fois cette opération réalisée, il ne reste plus aucune trace informatique de cette voiture. D'autres membres du réseau modifient des plaques d'immatriculation et un garage complice revend le véhicule à des acheteurs de bonne foi. C'est un groupement d'assurance qui a constaté les mystérieuses disparitions des inscriptions dans les fichiers. Des particuliers, les propriétaires initiaux des voitures volées, ont également déposé plainte. L'enquête est confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé et l'Inspection générale de la police nationale.
Alice Moreno. Et puis une belle histoire de solidarité. À Blaye, près de Bordeaux, les habitants se mobilisent pour sauver un jeune boulanger d'origine malienne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Juliette Chaignon.
Depuis qu'il a reçu le courrier d'expulsion en novembre, Silima ne peut plus travailler. Il n'ose plus sortir seul. Katie et Pierre, sa famille d'accueil, ne l'avaient jamais vu comme ça.
Il n'a plus le même allant. Il a perdu du poids, il est fatigué.
C'est les premiers symptômes d'une dépression qui pourrait s'installer si ça continue.
Les autorités reprochent à Silima d'avoir menti sur son âge. À son arrivée en France, il a prétendu être mineur. D'après Katie, ce mensonge l'a sauvé.
Il n'aurait pas eu de formation. Cette fraude à l'âge qui lui a permis cela.
Silima est bien intégré. Un CAP boulangerie en poche. Il a rattrapé ses lacunes en français. Et c'est un employé modèle. Cyril Austin est son responsable.
Jamais un retard, jamais une absence. Je me rappelle même une fois, donc il était arrivé donc avec la grippe. C'est même moi qui l'ai obligé à repartir chez lui. Silima, c'est un peu notre mascotte.
La crainte de Katie et Pierre, c'est donc qu'ils retournent au Mali.
Ce qu'on appelle les retournés, ils portent sur leur dos un échec qui est très mal accepté par les compatriotes.
Le comité de soutien cherche une solution, peut-être un recours pour suspendre temporairement l'obligation de quitter le territoire.
Football, Christian Gourcuff n'est plus entraîneur du FC Nantes. La déroute 4-0 dimanche face à Strasbourg a fini de sceller son sort après une série de contre-performances. Son adjoint Patrick Collot assurera l'intérim jusqu'à la trêve hivernale. Et puis ce soir, le PSG affronte les Turcs de Başakşehir. Un seul point suffirait pour accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions. RTL Foot à 20h45. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer au 32-10. Donc 8 x 7, ça fait
8 x 7, 56.
Mais oui, bien sûr, vous le savez.
Mais alors, il y a deux maths quand même. Il y a les maths, effectivement, ce qu'on appelle le calcul, etc. Mmh. Et puis après, il y avait les espaces vectoriels, la géométrie, qui était.
Mais vous savez, dès le CM1, on fait déjà des fractions, etc.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est plus facile que la géométrie ou ces choses-là, non ?
Quatrième, il y en a le théorème de Pythagore.
Bon, ça, ça va être théorème de Pythagore. Vous en souvenez, quatrième. Par exemple, vous pourriez dire le théorème de Pythagore, ce que c'est ?
Non, je ne saurais plus vous le dire là, ouais, de tête. Mais j'ai révisé avec ma fille l'année dernière.
Bon, en tout cas, on va interroger effectivement nos amis parents d'élèves, peut-être, et puis pourquoi pas aussi des élèves, puisqu'on a reculé de combien de temps ?
Mais on a perdu une année en 25 ans, c'est-à-dire le niveau des élèves de 4e et celui des élèves de 5e il y a 25 ans.
C'est fascinant quand même. Fascinant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'en maths. Si vous me permettez. Ça,
alors, c'est un autre front que je ne vais pas ouvrir. Bon.
Donc on pourra évidemment évoquer cela. Noël sans famille, est-ce que vous êtes prêts à sacrifier cette période pour empêcher une troisième vague ? C'est vrai qu'il y a une petite musique qui tourne avec M. Salomon hier qui nous inquiète parce qu'on n'est pas certain d'être déconfiné le 15 décembre. Nous pourrons évoquer également Emmanuel Macron qui a décidé donc la tenue à partir d'un janvier d'un Beauvau de la sécurité. Mais pardonnez-moi, moi je comprends rien. Il y a une loi en ce moment qui s'appelle sécurité globale. Et puis on nous dit il va y avoir le Beauvau de la sécurité. Mais sécurité globale, c'était pas déjà une loi sur la sécurité ? Donc on pourra en parler ensemble. Hein ? Et puis, bien sûr, John Lennon, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez quand vous avez appris la mort de John Lennon en 1980.
Non, je ne me souviens pas. Et vous, vous étiez où ?
Bah, j'étais justement en première. Et le professeur était entré dans la classe. C'était professeur de français, il s'appelait Monsieur Bernard. Il a dit, voilà, John Lennon est mort. Pour vous, ça ne vous dit peut-être rien, mais pour moi, qui était prof de français et qui a accompagné les Beatles, c'était en 80, c'était un grand mort.
Ça vous a marqué, oui.
La preuve.
Je relance l'opération Pull de Noël pour notre ami Pascal Proulx. Si vous nous écoutez, il s'est engagé, si vous lui envoyez un vieux pull de Noël, il s'est engagé à porter le plus beau le 24 décembre.
Exactement.
Voilà, donc vous nous l'envoyez ici à RTL, taille L, voilà. Peggy Broggi.
Merci.
La météo, on sort bien couvert encore aujourd'hui, on met un pull de Noël, mais on met un truc par-dessus.
De Noël. Oui, oui, parce qu'il fait vraiment froid, 3 degrés à Aurillac, 4 à Lille et Nancy, 5 à Paris, Bourges et Dijon, c'est vrai, 8 à Montauban, c'est plus doux du côté de Brest, avec 9 degrés, comme à Nîmes d'ailleurs, 10 à Bordeaux, 12 à Nice. Alors côté ciel, ça reste instable, avec des averses orageuses sur les Pyrénées, une bonne quantité de neige attendue, 10 à 20 cm. Instabilité orageuse également sur la Corse, avec de la neige des 1400 mètres. Il y a toujours cette bande nuageuse avec de faibles précipitations, alors de pluie ou de neige, hein, des 300 mètres entre l'Auvergne, la Bourgogne, la Lorraine, où ça déborde en plaine d'ailleurs sur le Grand Est. La Lozère, je précise, est sortie de la vigilance orange. Et puis un temps sec, mais souvent nuageux, avec tout de même quelques éclaircies possibles, un peu plus que ce qui était prévu entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le Limousin. Et là où le temps est vraiment plus lumineux, c'est entre la Bretagne, le Cotentin, Pays de la Loire, en redescendant vers la façade atlantique, ce qui n'exclut pas quand même une petite averse sur la pointe bretonne ou le Cotentin.
Bon, et demain, toujours cette atmosphère hivernale.
Oui, avec des gelées matinales quasiment partout, des maximales en baisse sur le nord-est. Ça sera d'ailleurs sur le nord-est la journée la plus froide. 2 degrés à Metz pour les maximales, hein. 3 à Strasbourg, ouais. 5 à Lyon, 6 à Paris, 9 à Rennes comme à Toulouse, 13 à Nice. Alors le temps restera perturbé avec de fréquentes averses sur les Pyrénées. Alors de pluie ou de neige, hein, comme aujourd'hui, pareil en Corse, surtout l'après-midi. Ailleurs, ce sera globalement gris, toujours quelques flocons en montagne, jusqu'en plaine, toujours entre la Bourgogne et le Grand Est, même si c'est pas grand-chose. Et près de la Méditerranée, du soleil, mais comme il y aura beaucoup de vent, le ressenti sera quand même bien hivernal. Sur la façade atlantique, encore des éclaircies le matin, mais ça ne va pas durer, puisqu'on a une nouvelle perturbation qui va arriver par la pointe bretonne et qui va donner un ciel bien nuageux.
Bon, et on comprend mieux pourquoi les ventes de raclette bondissent en ce moment avec cette météo. Merci.
On en a bien besoin.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Proulx. Nous allons parler mathématiques avec Anne en Tarn-et-Garonne. Anne, vous êtes terrifiée du niveau.
Oui, bonjour, bonjour Pascal. Oui, je pense qu'on parle des mathématiques aujourd'hui, mais qu'en fait c'est une réalité qui s'étend pratiquement à l'ensemble des matières.
Ah bon, bah vous me faites peur. On va en parler dans une seconde. Christelle Rebière, tout de suite.
Et oui, effectivement, nous sommes nuls en maths et en sciences, ou presque. D'après la dernière enquête Teams réalisée par un groupe de chercheurs internationaux, les élèves de CM1 et de 4e sont derniers de l'Union européenne et avant-derniers des pays de l'OCDE. En maths, les élèves de 4e d'aujourd'hui ont le niveau des élèves de 5e il y a 25 ans. C'est sans doute l'injection la plus médiatisée au monde. Une grand-mère de 90 ans a été la première en Angleterre à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech sous l'œil des caméras. Le Premier ministre Boris Johnson demeure prudent. Le vaccin, c'est une énorme différence, dit-il, mais il est trop tôt pour baisser la garde. Des peines de 5 ans de prison à la perpétuité requises au procès des attentats de janvier 2015 contre les 14 accusés jugés pour avoir aidé à la préparation des attentats. Réquisition au procès de l'affaire dite des écoutes qui reprend dans une demi-heure à Paris. Je veux être lavé de cette infamie, disait hier Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence. C'est l'accusation qui prend la parole tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole.